6h48, c'est l'actualité de la semaine vue par nos confrères de Courrier International. Première étape aujourd'hui, la Biélorussie, où la dernière dictature d'Europe vacille après la réélection controversée dimanche dernier d'Alexandre Loukachenko. Depuis, il y a eu des manifestations réprimées pour beaucoup dans la violence.
La présence de l'armée dans les rues de Minsk n'a pas dissuadé ces manifestants de sortir crier leur colère.
В Беларуси тысячи людей вышли на улицы городов.
Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Laetitia.
Des voix s'élèvent dans la presse étrangère.
Et de mon point de vue, le pouvoir a déclaré la guerre à son peuple. Sa déclaration très forte, c'est celle de la Biélorusse Svetlana Alexievitch. Écrivaine, prix Nobel de littérature en 2015, elle illustre parfaitement la situation dans laquelle se trouve le pays depuis le début de la semaine. Dans un entretien relayé par le site indépendant Belorusski Partizan, Alexievitch dit n'avoir jamais pu imaginer un tel niveau de répression. Les gens se font arrêter dans la rue, témoigne-t-elle, ils sont parqués dans des stades sans eau ni nourriture, des personnes pourtant absolument pacifiques. La femme de lettres en est certaine, plus personne ne soutient Loukachenko dans le pays. Tout le monde, au contraire, est convaincu de la victoire de l'opposante Svetlana Tikhanovskaya, une opposante qui a d'ailleurs pris la décision difficile de fuir pour les Lituanies voisines face à la montée de la répression. Dans une vidéo publiée mardi, elle apparaissait particulièrement marquée et expliquait avoir quitté la Biélorussie pour le bien de ses enfants.
Je ne souhaite à personne de faire le choix que j'ai dû faire. C'est pourquoi je vous demande s'il vous plaît de prendre bien soin de vous. Pas une seule vie ne vaut la peine d'être perdue à cause de ce qu'il se passe en ce moment.
De son côté, la presse lituanienne a salué l'accueil de Tikhanovskaya. Pour le site internet Delphi, par exemple, c'est la preuve que la Lituanie ne compte pas accepter les résultats falsifiés du scrutin. Et c'est justement ce que demande l'opposition biélorusse, que la communauté internationale se mobilise contre Loukachenko. Reste désormais à savoir sous quelle forme il est question de sanctions, c'est ce qui a été débattu par l'Union européenne hier. Il est question aussi de reconnaissance d'un gouvernement alternatif. Dans ce second cas, on basculerait alors dans une sorte de scénario à la vénézuélienne, avec un chef d'État contesté et un autre reconnu par la plupart des pays occidentaux. D'autant que, comme le remarque le quotidien russe Kommersant, l'opposition biélorusse a de facto déjà commencé la constitution d'un gouvernement en exil, avec Tikhanovskaya donc, mais aussi Valérie Tsepkalo, candidat refusé à la présidentielle qui a quitté le pays avant l'élection. Et pendant ce temps, en Biélorussie, les ouvriers se mettent en grève. En un mot, la pression ne va pas redescendre de sitôt. Pour la première fois, la fin de l'ère Loukachenko semble envisageable, estime le journal Ukrainska Pravda en Ukraine. Mais de quelle manière? L'homme fort de Minsk est toujours soutenu par Moscou, et ça, c'est plus fort que tout. Selon le journal russe Sobesednik, la seule issue est sans doute la mort de Loukachenko ou un ras-le-bol de Moscou qui déciderait de l'écarter du pouvoir. Ou peut-être, sait-on jamais, Loukachenko entendra-t-il le cri du cœur de la prix Nobel Alexievitch? Dans son interview, elle le dit et elle le répète: va-t'en avant qu'il ne soit trop tard, avant d'avoir précipité le peuple dans la guerre civile, va-t'en.
On revient, Sacha, plus près de la France, avec un plaidoyer publié dans un journal belge. C'est un gérontologue qui nous l'assure. Il faut supprimer les maisons de retraite.
Et oui, c'est effectivement la position défendue par le docteur Peter Janssen dans les colonnes de The Standard. Pour lui, la crise du coronavirus a mis en évidence une chose. Les maisons de retraite sont complètement inadaptées à notre époque. Pourquoi? Eh bien, il cite pas moins de 8 raisons. La principale, dans un contexte d'épidémie, c'est que ces établissements sont des lieux particulièrement propices à la propagation des maladies. On l'a vu en France et en Belgique, justement. Ensuite, les gens ont de moins en moins envie d'y aller. Le gérontologue met ça sur le compte d'une génération de baby-boomers plus indépendante et revendicatrice. Autre raison avancée, ces structures nous divisent, nous éloignent de nos aînés et violent même parfois leurs droits humains en les privant de liberté. Pour finir, Peter Janssen dénonce le prix exorbitant des structures. Mieux vaut investir, selon lui, le peu de moyens dont disposent les maisons de retraite dans l'humain que dans la pierre, c'est-à-dire dans le développement de soins préventif et ambulatoire plutôt que dans des structures d'un autre temps.
Allez, un peu de musique pour terminer, Sacha. Direction le Nigeria à présent, à la rencontre d'un rappeur, Burna Boy, dont le 5e album est sorti hier.
«
Une base rythmique souvent donnée par une machine, des instruments samplés ou joués en direct qui jouent à cache-cache avec le tempo, et puis une voix, mélange entre staccato d'un rappeur et velours d'un crooner, c'est ça le style Burna Boy. Le rappeur nigérian signe là son 5e album, intitulé Twice as Tall, ou deux fois plus grand en français. C'est sorti vendredi, et c'est une vraie réussite, à en croire The New York Times, qui tire un portrait élogieux du jeune homme de 29 ans. Alors pour vos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore Burna Boy, Laetitia, le journal américain le présente ainsi, je cite... Il est un peu le fer de lance d'une nouvelle génération d'artistes africains que les Occidentaux découvrent grâce à l'essor du streaming et à l'incroyable créativité qui s'exprime en dehors des gros labels. Pour vous donner une idée du phénomène, les chansons de son album de 2019 enregistrent pour certaines 150 millions de vues en ligne et Burna Boy, il compte la reine Beyoncé parmi ses nombreux fans. Ce qui fait la spécificité de Burna Boy, souligne The New York Times, c'est qu'il n'a pas dilué son héritage africain pour plaire à un public international. Au contraire, il a ajouté une incontestable marque africaine à des inspirations venues de tout le continent et de toute la diaspora. Au fil des 15 morceaux de Twice as Tall, l'artiste, qui a grandi entre le Nigeria et Londres, fait le point sur ses succès et ses points faibles et il invite son public à faire preuve d'ambition et de persévérance envers et contre tout. Burna Boy fait aussi la fête et crucifie le racisme, l'exploitation et les préjugés sur l'Afrique. Dans un but ultime, c'est ce qu'il raconte dans The New York Times, il veut rassembler tous les pays et les cultures du continent.
Merci Sacha Mitchell.
Merci Laetitia.
Burna Boy, Twice as Tall dans l'actu internationale avec nos confrères donc de Courrier International. Il est 6h55.